Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand.
Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui certes fait souvent son difficile. Pinaille prend un malin plaisir à ne pas trop apprécier le cinéma tel qu'on nous le sert depuis quelques années. Bref, à ne pas aimer grand-chose car il n'y a pas grand-chose à aimer. Ceci étant dit, quand un créateur nous offre ce qu'il sait faire de mieux, voire renoue avec les plus belles heures de sa filmographie après s'être un peu perdu en chemin, nous sommes au rendez-vous aussi il y a 2 ans. C'est avec une majorité d'applaudissements que nous avions accueilli le très chouette Split, retour en force de M. Night Shyamalan, qui enfin remettait sur les rails le projet tant rêvé d'une suite au formidable Incassable. Cette suite, elle porte un nom, elle s'appelle Glass, et on va en causer là tout de suite avec un quatuor de super-héros sans costume réunis ici à l'antenne Paris. Julien Dupuis, salut Julien.
Salut Thomas.
David Honora, salut David.
Salut Thomas.
Perrine Kenson, salut Perrine.
Salut Thomas.
Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane.
Salut Thomas.
C'est Nos Ciné épisode 170 et c'est parti.
Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît.
Glass reprend donc les choses là où Split les avait laissées, à savoir le départ dans la nature de la terrible et incontrôlable bête incarnée par James McAvoy, une bête humaine que se met à traquer le vétéran David Dunn, toujours aussi surpuissant et toujours interprété par Bruce Willis, pendant que dans l'ombre s'agite un autre ancien combattant, le très inquiétant Elijah Price, alias Mr. Glass, alias Samuel L. Jackson.
Elijah's changed over the years. He's given up. We keep him heavily sedated.
But there is a reason for that.
He's too smart for them.
You won't be lonely anymore. You have 2 new friends.
Derrière la caméra, donc, on l'a dit, c'est M. Night Shyamalan, et au casting, on trouve également Sarah Paulson et Anya Taylor-Joy, qui reprend son rôle de Casey, la survivante de la bête dans Split. Votre avis sur Glass, les amis? Forcément, Julien Dupuis est autour de la table, c'est lui qui devrait commencer,
mais justement,
laissez-moi y aller. Justement, pour une fois, on va rompre cette tradition millénaire et donner la parole à David Honora en premier, qui est notre Shyamalanologue, on va dire, en chef.
On peut dire ça, ouais.
On peut le dire.
Non, je vais commencer du coup, parce que je pense qu'on va dire pas mal de mal du
film. Oui. Qui, et déjà, peut-être on va prévenir qu'on va spoiler,
on va spoiler comme des
cochons.
Comme des gros salauds. Voilà. Parce que voilà, moi, j'avais fait en sorte de rien voir du tout avant le film. Mmh. J'avais pas vu de bande-annonce, rien du tout. C'était donc une surprise totale et plutôt une mauvaise surprise. Je vais commencer par parler d'un truc qui m'a plu dans le film. Par contre, faut pas me couper pendant que je vais en parler parce que il y a un twist.
Ok.
Il y a une très belle scène où on retrouve le personnage de Samuel Jackson enfant dans une fête foraine. C'est très coloré, c'est superbement composé et c'est une des origines du personnage. Il est dans une fête foraine avec 2 grosses peluches. Il va se mettre dans une attraction. Il prépare bien toutes les protections pour pas se casser quelque chose parce qu'on sait qu'il souffre d'une maladie des os de verre. Tout est hyper intense. C'est vraiment, en plus, dans le montage du film, c'est un moment où on se dit, qui crée une vraie empathie pour le personnage et qui fonctionne très bien avec la suite. Le seul problème de cette scène, c'est qu'elle a été tournée à l'époque d'Incassable, il y a quasiment 20 ans. Et que c'est le seul truc un peu à sauver du film, enfin qui dénote complètement du reste.
Et qu'elle est remontée en plus.
Et elle est légèrement remontée, ouais. Effectivement, enfin même plutôt pas mal remontée, parce qu'on peut la voir. Elle était dans les bonus DVD d'Incassable.
Ouais.
C'était une scène, et ça c'est un truc intéressant sur presque tous les films de Shyamalan. Il coupe souvent pas mal de scènes et il explique de manière détaillée les raisons pour lesquelles il a coupé cette scène. Donc cette scène, on peut la retrouver sur les bonus d'Incassable. Et c'est une scène qui a du sens, qui a des enjeux. Et le problème du film, à mon sens, le problème majeur, c'est qu'il en est dépourvu. Si on refait un peu la chronologie de cette trilogie, Incassable, c'était un film qui partait du point de départ d'un survivant d'un accident, le seul survivant d'un très gros accident de train, Bruce Willis. Et on découvre que ce qu'on pensait être un drame avec des implications plus ou moins fortes était en fait la genèse d'un héros et un film de super-héros. Dans Split, la prémisse de départ, c'est un rapt, un kidnapping de trois jeunes filles avec un personnage qui souffre d'un désordre de
dissociation
de la personnalité.
Enfin, personnalité multiple.
De personnalité multiple.
Il en a 23 en tout.
Il en a pas mal.
C'est beaucoup.
Et on découvre à la fin que c'est la suite d'Incassable et du coup que ça s'inscrit dans cet univers.
Que là, c'est l'origin story d'un super méchant. Plutôt.
Voilà. Et en fait, avec Glass, le point de départ qu'on connaît, c'est que c'est la suite d'Incassable et de Split.
Et de Split.
Et du coup, on est censé être dans un film de super-héros et tout le film, d'une certaine manière, reprend l'esthétique et la manière de fonctionner d'Incassable, c'est-à-dire de jouer le contre-pied du film de super-héros pour, au final, avoir un retournement qui est du coup extrêmement faible, qui est de dire non, c'était quand même bien un film de super-héros. Et en fait, il y a tout un arc narratif qui repose sur le fait que les trois personnages, donc celui de Bruce Willis, celui de James McAvoy et celui de Samuel Jackson, sont enfermés dans un hôpital psychiatrique. Et il y a un long arc narratif qui, pour moi, j'ai beaucoup de mal à trouver ce que Shyamalan a voulu raconter avec ce film. En fait, le principal morceau de récit, c'est la remise en question. Est-ce que ce sont vraiment des super-héros ou est-ce que ça a été fantasmé par ces différents personnages et est-ce qu'ils sont fous ? Et le personnage de Sarah Paulson est une psychiatre qui va tenter pendant le film de les convaincre qu'en fait ils sont fous et qu'il faut qu'ils retrouvent la raison. Le problème, c'est que ça, du point de vue du spectateur, ça ne fonctionne absolument pas. Parce que ça a été démontré en fait par Incassable. On ne peut pas remettre en question le fait que Bruce Willis a une force surhumaine. Ça nous a été montré. Et donc le récit de Glass va s'appuyer sur certains éléments en disant peut-être le comportement de McAvoy peut s'expliquer par certaines choses, qu'il a vu des vidéos qui lui permettent de monter au mur, peut-être que le sens de l'observation de Bruce Willis est extrêmement développé, etc. Sauf que ces éléments de remise en question de base ne peuvent pas fonctionner parce que Incassable a largement dépassé la limite du réalisme et de la réalité pour nous dire non, c'est pas juste un être exceptionnel, Bruce Willis, le personnage de David Dunn, est quelqu'un de surhumain. Et le retournement final de Glass est de dire qu'au final, de toute façon, Sarah Paulson n'y croyait pas et elle faisait juste ça pour essayer de le enfin, même si ça n'a pas de sens.
Elle y croit.
Non, elle sait que c'est des super-héros.
Oui, voilà,
et elle veut
c'est
les,
ça.
Et donc elle ne croyait pas à tout ce qui se passe dans le film. C'est-à-dire que pendant tout le film, elle tente de leur faire croire qu'ils n'existent pas, alors qu'elle sait que c'est n'importe quoi. Et le problème, c'est que le spectateur sait que c'est n'importe quoi. Et du coup, je vois pas à quoi m'accrocher. Alors, il y a certains éléments qui, pour moi, sont métafilmiques, qui sont un peu intéressants. On peut se dire que c'est que Shyamalan, à travers le personnage de Glass, fait un portrait de lui-même, à la fois le créateur de cet univers, qui est à la fois démurge, à la fois le personnage dont on a besoin pour créer des mythes et en même temps qui va créer ses antagonismes, etc. Il y a une sorte de discours assez foireux sur les réseaux sociaux et sur la manière dont ils vont permettre de diffuser l'information de l'existence des super-héros. Il y a plein d'éléments autour de ça qui, en fait, tombent à plat juste parce qu'il n'y a pas de plaisir au premier degré. C'est-à-dire qu'on on regarde le film et on ne sait pas ce que ça veut raconter.
Pour moi, c'est le problème majeur parce que c'est pas tellement ce que le film raconte qui me pose problème en soi, à part la pirouette finale qui est complètement débile hein, pour le coup. Le reste du film, ce qui est problématique, c'est que tu te retrouves en fait avec effectivement une remise en question des statuts des personnages, mais qui est une remise en question que j'ai l'impression qui est initiée par le fait que Incassable à l'époque de sa sortie, et ça il faut quand même le rappeler, s'est fait défoncer par la critique, et la plupart des gens en fait sont sortis extrêmement déçus parce qu'ils attendaient éventuellement une suite spirituelle à sixième sens
bis, ouais.
Voilà, et le problème en fait c'est que ce que je ne m'explique pas du coup quand je regarde le film, c'est pourquoi est-ce que Shyamalan en reste encore là, puisqu'il a les moyens de faire cette suite. Si ça veut dire quand même que le film il est resté quoi qu'il arrive en fait, puisque 20 ans après il peut arriver à faire boucler sa trilogie et trilogie qu'il avait à l'époque initiée
prévu,
à l'époque de la sortie du premier quoi. J'ai beaucoup de mal à croire que alors peut-être plus pour Split, mais en tout cas pour Glass, j'ai beaucoup de mal à croire que c'était ce qu'il avait prévu à l'époque.
Oui.
J'en doute vraiment, quoi. Et le problème, pour moi, c'est, encore une fois, c'est pas tant ce que ça raconte, que c'est extrêmement mal raconté. C'est-à-dire que, quand tu parles de pas avoir du plaisir au premier degré, c'est qu'au bout de la 15e, 30e fois, 40e fois, où le personnage de James McAvoy t'explique qu'il est en train de changer de personnalité, alors qu'il joue pas du tout de la mise en scène autour de ça, alors que normalement, tu devrais l'avoir intégré, même si t'as pas vu Split. C'est-à-dire, au bout de la 4e fois, il dit « je laisse la place à tel perso ». Ben, ouais, là, tu te dis « on a perdu le mec qui a rien qu'à ça ». Parce que le truc, moi, je trouve ça extrêmement... On a beaucoup parlé avec Julien en sortant du film, mais je trouve ça extrêmement difficile de ne pas le prendre comme la suite d'Incassable, puisque c'est la suite d'Incassable. Donc, à partir de ce moment-là, même s'il a fait X 1000 films entre-temps, pour moi, assez ratés, même si je sais qu'il ne va pas forcément retrouver cette grandeur-là, la question que je me pose, c'est à quel moment il essaye ? Et jamais. C'est ça, le problème, en fait. C'est-à-dire que, je pense qu'on peut remettre en question le statut de super-héros de Bruce Willis à la sortie d'Incassable, juste parce que, en fait, ce qui fonctionne pour moi dans Incassable, c'est que c'est du quotidien. C'est une baston, par exemple, la fameuse baston dans Incassable où il arrête le Orange Man. C'est une scène finalement assez. C'est un plan séquence. C'est une baston assez classique, mais c'est tout l'accomplissement narratif qui te rend la séquence surpuissante, en fait. C'est-à-dire que t'es.
Des haltères quand même.
Oui, mais bon, enfin, tu rajoutes 3 haltères de plus. Enfin, le mec, il soulève 200 kilos au lieu de soulever. Certes, il n'a pas le physique de Lou Ferrigno, mais quand même, quoi. Tu vois, tu peux te dire, bon, c'est un truc. L'idée d'Incassable, c'est que tu as un potentiel et tu le surpasses. Et ce qui était formidable, c'était que Shyamalan le surpassait lui aussi, en fait, son propre potentiel. C'est-à-dire qu'il vous le démontrait, c'était le fond et la forme. Là, alors peut-être on pourrait dire que l'idée de déconstruire justement Incassable, bah, il y applique la forme aussi, si on veut, mais je pense pas que ça soit déjà aussi suivi. Et t'as pas une scène, mais je la cherche, hein, y a pas une scène émotionnellement forte, en fait, si tu veux, comme il y en avait dans Incassable, même en tentative, quoi. Et le problème, en fait, de raconter, c'est-à-dire que tu veux bien si tu veux déconstruire Incassable, c'est une chose, mais dans ce cas-là, t'essayes pas de raccrocher les wagons, c'est-à-dire, sans mauvais jeu de mots, c'est-à-dire que t'as le personnage de Shyamalan qui apparaît au début, qui est aussi, dans Split, qui est aussi dans Incassable, et en fait, on t'explique, et ça prend 2 minutes à l'écran, et tu te dis, ça servait à rien, on pouvait couper ça, ça sert à rien, tu vois, que c'est le même perso. Question que tu t'es absolument pas posée quand tu regardais Split, tu vois. Ce genre de truc, le personnage de, il y a une apparition très rapide, de la femme de David Dunn, mais en fait on t'apprend qu'elle est morte 5 minutes après, 10 minutes après, donc tu remets en question la scène parce que tu te dis mais vous essayez de me montrer qu'ils avaient des problèmes de communication comme dans le premier et pourquoi faire, puisque c'est vraiment une scène, c'est un plan où il rentre chez lui, il est tout seul, et en fait, il visualise sa femme de dos, donc c'est même pas, comment il s'appelle, Robin Wright Penn qui joue le rôle, quoi. Okay. Et en fait, 10 minutes après, t'apprends qu'elle est morte. Et ça, le fait que t'apprennes qu'elle soit morte, et que t'apprennes que ça devrait avoir une incidence, en fait, sur les deux personnages, que t'as pas du tout, jamais. Donc, quasiment jamais, à part le moment où c'est Julien qui me fait...
David fait un geste de la... Julien fait un geste
c'est,
de la
c'est, c'est quasiment jamais, parce que c'est le seul moment où, en gros, elle a une conversation avec le fils de Bruce Willis, la psychiatre, et elle lui explique « Vous avez besoin de vous raccrocher à quelque chose, juste parce que la femme de votre vie, elle est morte. »
C'est pas ce qui fonctionne le moins bien, en tout cas. Moi, je trouve cette excuse au fait qu'il n'y ait pas Robin Wright Penn dans le film nourrit un tout petit peu les traumas, en fait, des personnages, et le fait qu'il puisse fonctionner en vase clos et qu'il soit enfermé dans un potentiel mensonge.
Ce genre de séquence, tu le vois que c'est pas elle, en fait. C'est ça le problème. problème, c'est que en plus, quand t'as un seul plan, ça se grille. Donc au bout d'un moment, quand t'es censé raccrocher les wagons, tu vois, il suffisait d'expliquer qu'elle était morte. Il suffisait même de faire une scène à la Rocky Balboa. Ils vont sur la tombe et ça suffisait pour moi. Tu vois, c'était pas.
Il y a un truc qui est effarant. C'est pour ça que je parlais de la scène de la fête foraine en introduction. C'est que c'est une scène sans dialogue qui raconte tout. Et là, le film est noyé de dialogues surexplicatifs. Ouais. Et jusqu'à la scène finale. En gros, le film se termine sur le fait que l'information comme quoi il y a des super-héros dans le monde est propagée à la population, et on retrouve les trois personnages liés aux personnages principaux, donc le fils de David Dunn et la mère de Samuel Jackson et Anya Taylor-Joy, et ce qui aurait pu être réglé en un mouvement de grue, il le surcharge de dialogues complètement inutiles qui cassent en plus l'émotion de cette scène-là.
Mais moi, je pense que le problème de ce film, pour terminer juste ce que je voulais dire, c'est que c'est un film qui est surintellectualisé par rapport à Incassable. C'est-à-dire qu'en gros, même si Incassable, c'est un film qui est extrêmement pensé, extrêmement travaillé, et c'est même encore une fois ce qu'il a fait de mieux, quoi, c'est un film sur lequel, en fait, tout était au service de l'émotion. Là, tout est au service de je fais un film qui est comme mes personnages principaux, c'est-à-dire qu'ils sont sur le même spectre, tu vois, mais à l'opposé. Et donc, en fait, je construis mon film comme une opposée d'Incassable. Mais t'as envie de dire, ok, mais pourquoi ? Enfin, je veux dire, t'es pas obligé de faire ça dans l'absolu, t'es pas obligé de pousser l'aspect, thèse de ton propre cinéma, en fait, si tu veux, si c'est pour faire... Disons que si Incassable c'était du pur cinéma, bah là c'est limite du non-cinéma par moment, c'est-à-dire c'est ça le problème, quoi. Et les bastons, elles sont surdécoupées, t'as des plans que tu te trouveras dans n'importe quel Kick-Ass ou je sais pas quoi, où les mecs ils accrochent une caméra sur Bruce Willis, tu vois, pour montrer qu'il se bat, parce que sinon il va pas le faire, quoi. Donc il y a que des trucs comme ça, et tu te dis mais vous vouliez pas construire un truc qui mène à l'accomplissement? Et ensuite le twist final, c'est juste un espèce de truc de franc-maçon à la con là, que je m'explique même pas. C'est-à-dire qu'il y a une organisation millénaire qui travaille dans l'ombre pour t'expliquer que les gens sont normaux. C'est pour faire croire aux gens qu'il y a des gens normaux, quoi. Tu vois, et là, tu te dis, mais c'est la vraie vie, ça. C'est pas la peine de faire ça, en fait. Pourquoi vous vous organisez? Et alors, ils sont tellement normaux qu'ils se donnent rendez-vous dans des restos normaux où ils attendent que les gens normaux sortent, tu vois, pour parler entre eux, quoi. C'est ni fait ni à faire. C'est-à-dire que c'est une idée. C'est, pour le coup, c'est vraiment l'idée con du film. Parce que jusque-là, pour moi, c'était un film qui était mal exécuté. Et là, c'est vraiment l'idée con du film et exécuté n'importe comment, quoi. Alors, j'imagine qu'après, il y a beaucoup de gens qui vont surdéfendre le film dans l'absolu. Je pense que la réception est assez tiède, mais dans l'idée justement que c'est la suite d'Incassable et que donc il y a forcément des points de repère. Mais moi, je t'avoue qu'effectivement, en termes de premier degré, plaisir pur, enfin, ouais, j'ai trouvé ça, mais vraiment pas possible, quoi.
Perrine ?
Puis on s'ennuie surtout.
Voilà.
Je me suis surtout particulièrement, parce qu'on parlait de plaisir de spectateur, mais moi clairement c'est que je me suis largement ennuyée pendant tout le film. Je parle pas des kilomètres d'explications de la part de Sarah Paulson qui nous explique la thérapie en long, en large et en travers. J'en pouvais plus à un moment donné. Et c'est vrai que j'ai senti. Incassable était vraiment une sorte de d'ovni au moment où c'est sorti, c'était quelque chose d'assez à part, et justement je pense que c'est pour ça qu'il a eu cette réception un petit peu compliquée à un moment donné. Split, beaucoup plus tard, débarque finalement reposant sur sur le souvenir et le côté culte qu'a gagné Incassable. Pourquoi j'ai vu le mot, voilà, Incassable entre-temps, un petit peu là-dessus. Et en même temps, Split, c'est quelque chose de complètement différent, c'est beaucoup plus amusant, c'est beaucoup plus léger d'une certaine façon. En fait, il y a moins d'enjeux que dans Incassable. Et là, d'un seul coup, il s'est dit, ça marche. Là, ça a marché, contrairement à Incassable qui n'avait pas fonctionné à l'époque. Là, ça fonctionne. Mais on va surfer là-dessus, quoi. Et je trouve que cette précipitation, finalement, là où, en fait, Split, il y allait presque avec aucun poids, aucune... Voilà, il n'était pas obligé.
Sans pression.
Il n'y avait pas moins de pression. Là, d'un seul coup, il y a une sorte de vraie pression. Il y a une pression économique derrière aussi. Et il y a un besoin de rattacher par des bouts de ficelle beaucoup de choses. Ce qui fait qu'en fait, au bout d'un moment, il n'y a pas de... Moi, j'ai l'impression d'être une wakongave, c'est-à-dire qu'on me donne des choses, il faut que j'y croie, il faut que je les intègre. Et en fait, je me dis, mais non, ça marche pas. Enfin, pour moi, ça fonctionne pas. Et le pire, pour moi, étant, c'est deux. Il y a les trois personnages donc d'Incassable, Glass et Split, enfin les trois héros ou méchants, bêtes, et les trois autres derrière, ceux qui sont leur sidekick d'une certaine façon, ou leur binôme émotionnel. Et eux sont tellement pas développés, sont tellement pas expliqués, sont tellement là pour ne rien faire. C'est dommage parce que l'ouverture finalement, avec, enfin, le début avec la relation père-fils entre David Dunn et son fils fonctionne plutôt bien à mes yeux. Je trouve qu'elle marchait bien et si le film avait pu continuer là-dessus, moi j'étais plutôt vraiment partante sur cette histoire. Et en fait finalement ça, ça se perd au fur et à mesure. Anya Taylor-Joy, j'en parle même pas, elle est juste là pour ouvrir la bouche et faire genre, oh merde, il est en train de se transformer, ramenez-moi Kevin. Et la mère qui, oh bah non, il est pas si méchant mon fils, enfin, c'est pas sa faute. Enfin, et ça ne fonctionne pas du tout à aucun moment. Donc il y a beaucoup de choses qui sont vraiment difficiles à accepter. Et cette histoire, justement, vous en parlez depuis le début, que Sarah Paulson essaye de nous expliquer que oui, ce ne sont pas des super-héros, enfin, ce qu'ils essaient de leur faire croire en thérapie, blablabla. Tout ça pour mener finalement à un truc un petit peu, je trouve, d'une part, bon, déjà mal amené, mais surtout ultra déjà vu. Il y a un côté, bah finalement, on est tous des super-héros, vous êtes tous exceptionnels, chacun d'entre nous a quelque chose qui peut ressortir, et de faire voir que ça existe, ça va vous permettre de libérer vos... Mais je suis désolée, c'est du vu et revu, c'est fatigant comme système. Donc il y a un truc où l'espèce de message de base est, qui n'était pas dans Incassable, ou Incassable, clairement, David Dunn était quelqu'un d'exceptionnel. Et dans Split, c'était quelqu'un de particulier, parce qu'il avait eu un traumatisme. Et déjà, cette histoire qu'il y a seulement les gens qui sont brisés, qui sont des gens bien, c'était un petit peu étrange. Mais au moins, il y avait quelque chose. Là, c'est en train de nous expliquer. Non, tout le monde a une sorte de potentiel et il va pouvoir se révéler maintenant qu'on peut dire qu'il existe des super-héros. Oui, enfin, je suis désolée, mais il y a un côté un peu à la X-Men aussi. Enfin, quelque chose que je trouve ça assez.
Puis c'est bien de l'eau tiède aussi. Hein.
Mais exactement. C'est là où je me suis dit, à un moment donné, je tout ça pour ça. Ouais. C'est-à-dire 2 heures de construction, 2 heures de blabla, 2 heures d'ultra découpage et pour.
Un poster motivationnel.
Exactement, pour une inspiration quote, quoi. Et alors, j'étais genre, sérieusement.
Fait venir Mel Gibson de Sing, tu vois, à la fin, pour te faire croire que c'est en fait la suite de Sing, tu vois. Là, ça aurait été un bon film.
J'aurais rigolé, tu vois. Il y a un truc, allez, Joel Osment, finalement, hop, il revient, il y a des morts et tout. Ah, c'est super. Non, mais voilà, là, je trouve qu'il y a quelque chose où, au bout d'un moment, je vois le poster avec des arbres et on me dit, genre, mais non, toi aussi, tu es fort à l'intérieur. Toi aussi, tu es unique. Bah, c'est super. Merci beaucoup, les gars, quoi.
Julien.
Moi, je suis à peu près d'accord sur tout ce qui s'est dit. Il y a un ou deux trucs de sur lesquels je ne suis pas tout à fait d'accord, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Et pourtant, je ne peux pas nier l'évidence qui est que moi, je suis sorti du film, je n'étais pas énervé. Et je n'étais pas satisfait. Tu ne peux pas être satisfait, le film est tout pété, quoi, hein, c'est indéniable. Mais j'y ai trouvé quelques bribes, en fait. Et alors, je me suis posé la question, je me suis dit, mais pourquoi Julien, pourquoi tu te mens à toi-même? Que se passe-t-il dans ta tête? Et je me suis dit, mais il faut que j'en parle, en fait, de ça, parce que je pense que je ne vais pas être le seul, en fait, à avoir ce sentiment et à avoir ce rapport, en fait, avec le cinéma de Shyamalan. C'est-à-dire que moi, Shyamalan, j'ai un rapport d'amour... haine et on va dire affection, en fait, pour son cinéma. C'est-à-dire que je l'ai découvert avec Sixième Sens. J'ai pas vu ses précédents films, en fait, ce qu'il avait fait auparavant. C'est un film que j'ai beaucoup aimé à l'époque. D'abord, en partie, évidemment, pour le plaisir que m'avait apporté le twist, et ensuite pour les personnages qu'il avait apporté. Puis j'ai eu un choc, comme tout le monde, pas comme tout le monde, parce qu'à l'époque le film n'avait pas été aimé, mais j'avais énormément aimé Incassable. Et ensuite, c'est allé de mal en pis, en fait. Moi, j'ai commencé à être très très déçu par Signe, et jusqu'à un point pour moi finalement important, je le dis a posteriori, hein, de sa filmographie, qui est After Earth, où pour moi il n'y avait plus rien, en fait. C'était une espèce de coquille vide qui n'existait plus, en fait, et où je voyais même plus où il était, lui. C'est-à-dire que Shyamalan, qui était quand même indéniablement quelqu'un avec une personnalité, n'existait plus, en fait, là-dedans. Et moi, c'est dans ce cadre-là, en fait, que j'avais apprécié The Visit. C'est-à-dire que je voyais... Alors, il se trouve aussi que c'est la période à laquelle je l'ai interviewé aussi pour chacun de ses films. Ça a peut-être joué aussi un petit peu, mais en tout cas, je voyais là quelqu'un qui avait péché énormément par orgueil, qui faisait contrition, en fait, et qui s'abaissait même à faire pour un cinéaste comme ça, qui filme comme ça, faire un found footage. C'est quand même chaud, quoi. C'est quand même très compliqué. Et ça a été un film extrêmement dur, hein, pour lui, hein, très compliqué et très difficile. Et je crois qu'en fait, avec tous les problèmes qu'avait Visite, c'est un film qui m'a permis de faire la paix, en fait, avec Shyamalan, et de me dire, mais finalement, ce mec, il fait que des films tout pétés. Il y a eu 2 exceptions il y a maintenant presque 20 ans, en fait, hein, quand même. Hein. Et il y a, je sais pas, il a fait quoi, entre, il a fait plus d'une dizaine de films, enfin, peut-être que David me corrigera, mais... Donc voilà, ouais, mais je compte pas les deux premiers parce que je les ai pas vus encore une fois, donc plus d'une dizaine de films. Et en fait, je me dis, mais qu'est-ce que j'attends en fait de Shyamalan aujourd'hui, moi? Et en fait, j'attends pas, je peux pas attendre Incassable. Et même en sortant de Split, qui est un film que pour le coup j'aime bien, mais qui a aussi ses limites, j'attendais pas à ce qu'il refasse Split, à ce qu'il refasse Incassable, pardon. Donc je m'attends à avoir des bribes en fait de choses. Et alors, je reviens du coup là sur Glass, c'est qu'il y a des bribes, le film est tout pété, il est très mal fait, et moi, y a, par exemple, il y a un truc dont vous ne parlez pas tous, mais qui me semble hallucinant, en fait, qui est l'espèce de master plan de Glass, qui est donc supposé être un grand génie en fait, du crime, et c'est un des plans d'évasion les plus lâches, les plus nuls, les plus absents d'imagination que j'ai jamais vu. Quoi.
Mais là, c'est même pas le problème de Glass, c'est le problème de l'écriture, puisque dans le fait de jeu, ça il te le montre comme quoi il arrive à sortir de sa chambre sans problème.
Et,
tu vois,
donc, et en plus, avec des gros soucis d'écriture, puisqu'il n'y a pas d'antagoniste, c'est-à-dire que la prison dans laquelle ils sont est d'une... Elle n'existe pas. Enfin, les mecs, c'est des branquignols qui tiennent ça. Il y a quelques caméras, mais en fait, elles servent à rien, presque. C'est ridicule, quoi.
Il y a un discours méta là-dessus, quand même.
Voilà. Alors après, du coup, moi, qu'est-ce que j'ai retrouvé là-dedans? La première chose, c'est que je ne suis pas tout à fait, moi, d'accord sur le twist final. Alors, je suis d'accord sur son exécution. Mais par contre, ce que j'aime bien, en fait, dans le film, ce qui m'intéresse, en tout cas, et surtout quand je le replace, en fait, dans le cursus, en fait, de Shyamalan, c'est un film sur la foi, en fait, mais pas la foi en Dieu ou religieuse, hein, mais sur la foi, sur qu'est-ce que ça veut dire de croire, qu'est-ce que ça veut dire de défendre une conviction face à autrui, qu'est-ce que ça peut t'apporter à toi, qu'est-ce que ne plus croire peut t'apporter aussi, mais en quoi ça peut aussi te détruire à tout. Et ça, et je trouve qu'il y a de temps en temps des petites brides par-ci par-là qui sont pas inintéressantes. Et il y a un autre truc aussi sur lequel j'attendais pas, en fait, le film, et qui m'a plutôt surpris. C'est là où je suis pas du tout d'accord avec Perrine, c'est que j'aime bien ce qu'il fait, en fait, des trois personnages Psychic. Humains. C'est-à-dire que qu'est-ce que j'aime, en fait, là-dedans, c'est pas ce qu'il développe, en fait, sur les personnages. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est le culot narratif de ne pas tomber dans le travers de ils sont liés à un personnage, donc ils vont s'opposer, donc ils vont s'affronter. Non, ils sont pas du tout comme ça, en fait. Ils sont liés. Unis, en fait. Ces trois personnages-là, ces accompagnateurs, sont des espèces de témoins, on va dire, impartiaux, pardon, excuse-moi. Thomas, merci.
C'est leur temps dans le film à se croiser, d'ailleurs.
Et ça, je trouve, personnellement, je trouve ça, c'est plutôt intéressant. C'est-à-dire que ça fait partie des trucs où je me dis, il y a quand même un personnage derrière. Il y a quand même un cinéaste qui a pas, moi, j'ai eu le même truc avec Jeunet à une époque. Bon, c'est un peu pas, j'ai perdu ça, mais c'est-à-dire que c'est des gens, j'ai conscience, en fait, des faiblesses de leur cinéma, et je sais que là, je leur ferai jamais de ma vie. Mais en même temps, il n'y a pas d'équivalent. Il n'y a pas d'autre Shyamalan. Et ça fait partie de ces deux petits trucs-là. Ce discours méta, parce que ce truc sur la foi, j'ai pas terminé mon processus de pensée, mais ce truc sur la foi, pour moi, il parle de lui. Enfin, de toute façon, Shyamalan, c'est un mec qui parle énormément de lui. Il a toujours parlé de son processus créatif, de qui il était et tout, et tout cette obsession qu'il a eue depuis tout le temps, hein, sur le méga complot cosmique ou humain qui est dans quasiment tous ses films. Hein. Bah ça, c'est un truc qui lui appartient et qui, je pense, participe de sa façon de voir, d'appréhender le monde et l'univers. Enfin, ça, il me semble que c'est une évidence. Et là, il en parle à nouveau. Donc voilà, il y a des trucs comme ça. Je sais que, disons que ça me satisfait évidemment pas en suite de, évidemment pas d'Incassable, mais même en suite de Split. Par contre, je sais pas. J'ai réussi miraculeusement à faire la part des choses. Ça doit être peut-être mon super pouvoir. Il y a un autre truc aussi, parce que ça n'a pas été dit, moi, que
qui m'a fait
plaisir. Bah ouais, ça me fait bizarre. Mais il y a un autre truc aussi que moi je reconnais quand même au film dans les bastons, c'est que c'est vrai qu'il y a un truc par exemple qui est complètement raté, mais je me demande si c'est pas dû aussi à Bruce Willis, parce qu'on sait que c'est un acteur complètement ingérable aujourd'hui, mais ce truc de caméra portée sur lui, c'est ni fait ni à faire. Après, je trouve qu'il y a 2-3 choix de point de vue aussi, et c'est pareil, ça, il y a que lui qui fait ça, hein. Mais il y a 2-3 choix de point de vue dans le combat final, c'est sporadique, on peut estimer que ce soit un peu gratuit, mais j'aime bien, en fait. Ça m'a fait plaisir aussi, parce que c'est pareil, je vois pas d'autre équivalent là.
l'infirmière dans le fourgon et qu'il y a le point de vue.
Par exemple,
ouais, mais ça, c'est l'ombre, l'ombre de lui-même, ça. Enfin, je veux dire, quand non, tu vois comment il traite ça dans un
l'ombre, l'ombre d'un mec qui a disparu, pour moi, hein, depuis le début des années 2000, qui n'est plus là.
Split, c'était quand même largement mieux foutu sur ce point de vue-là.
C'est le film, je pense, un peu.
Dans celui-là, il y a une scène.
Mais ça, c'est clair. Alors, il y a un autre truc aussi qu'a dit Perrine, il y a trop d'enjeux et il ne faut pas non plus oublier que c'est sa première suite. Et je pense que Shyamalan, ce n'est pas un mec qui est fait pour faire des suites. Je pense même que c'est un mec dont le cinéma fonctionne sur la révélation du vrai genre de son film. C'est-à-dire que Incassable fonctionnait aussi parce que à mesure que le personnage découvrait ses pouvoirs, toi tu découvrais que t'étais dans un film de super-héros et que du coup lui découvrait qu'il était un super-héros, que toi tu te découvrais en tant que spectateur dans un film de super-héros. Et je pense que Split fonctionnait de la même façon, c'est-à-dire que tu décodais le truc, tu disais ah mais je suis dans une espèce de Shyamalan-verse tout à coup. Et c'est pas simplement le twist, c'est que c'était la construction en flashback. Enfin, j'imagine que vous en aviez déjà parlé à l'époque de Split. Je crois pas que j'avais participé à ce No Ciné-là. Donc voilà, c'est aussi un mec qui et là c'est pareil, il te déploie en fait le truc, il te dit non mais finalement c'est un film méta où moi j'essaye de recroire à ce que je fais.
Le problème c'est qu'il abandonne ses concepts en cours de route. La scène par exemple, la scène où elle les retrouve tous les trois dans la chambre là, tu sais, où elle les interroge tous les trois et qu'en fait d'un seul coup t'as les couleurs qui se mélangent, en fait c'est les couleurs de chaque perso qui se mélangent pour donner la tonalité. Et il leur fait jamais, c'est un truc qu'il abandonne. Le coup des caméras, moi j'étais en train de me dire pourquoi il fout des caméras partout, hein, c'est pour foutre les scènes sur YouTube à la fin. Tu te dis ah ouais d'accord super, tu vois. C'est que des trucs comme ça où tu te dis mais
oui, c'est jamais utilisé dans le récit à aucun moment. Par contre, juste un aparté sur ce que tu viens de dire tout à l'heure sur les trois, je suis d'accord avec toi sur un point de vue, c'est dans cette idée de la foi que tu exposais, l'idée des trois qui sont comme trois évangélistes qui vont venir transmettre une forme de bonne parole. Je trouve que ça fonctionne. Le problème c'est que le reste du, comme ils ne servent tellement, ils sont tellement pas là dans le récit, c'est qu'il n'y a qu'à la scène de fin où ils existent enfin, et je trouve que c'est vraiment dommage.
J'étais très étonné de voir en plus le sort qui est réservé du coup à ces trois personnages-là, et je parle des trois surhommes, et du coup la position en fait de ces trois personnages-là. Je pense que là, mais c'est ça en fait, enfin moi je me contente de ça maintenant hein, chez Shyamalan. Je trouve qu'il y a un embryon d'idées en fait de ça, et ça fait longtemps que moi je me contente de ces embryons d'idées quand même.
David, pour conclure,
surtout le problème sur la foi, c'est que, à mon sens, tout avait déjà été traité et répondu dans Incassable. C'est-à-dire que c'est une version, comme on a déjà dit plusieurs fois, l'ombre de lui-même à ce niveau-là. Et moi, je voulais juste conclure sur un truc, c'est que je pense, et vraiment pour avoir étudié un peu toute sa filmographie et les soubresauts de sa filmographie, que c'est un cinéaste qui fait beaucoup trop attention à ce que les gens disent de lui. Le pire de ça, ça a été peut-être dans La jeune fille de l'eau, le personnage du critique, qui est vraiment un tournant et qui en plus antagonisait beaucoup de gens contre lui. Depuis The Visit, que moi j'aime beaucoup, il entame un retour en fait dans l'opinion publique et dans la critique, etc. Et je pense que ça a joué finalement contre glace, notamment pour je rejoins ce que disait Stéphane au début sur le fait que je doute vraiment que le récit qu'il nous a raconté là soit ce qui était prévu à l'époque d'Incassable quand il disait qu'il avait déjà une trilogie en tête. Et il y a une scène au début du film qui m'a horripilé déjà dès le début et qui exprime ce côté faire trop attention à la vision que les gens ont de lui, c'est son caméo. On voit en fait on voit Shyamalan au début du film, et en fait il y avait un problème dans Split qui lui avait été remonté par les spectateurs, les internautes, c'est qu'il faisait un caméo dans Split. Or, si on était dans le même univers qu'Incassable, ça posait problème parce que il faisait aussi un caméo dans Incassable, et qu'est-ce qui pouvait lier les deux personnages qui à première vue avaient l'air complètement différents. Et en fait il adresse ce problème de manière mais hyper artificielle, hyper surexpliquée, avec Bruce Willis qui dit mais c'est qui ce mec, pourquoi il vient me parler, et du coup on a un truc qui ne fonctionne pas et qui est la démonstration en fait de ce côté tu fais trop gaffe à ce que les gens,
disent de toi. Pour terminer, on va faire comme toujours un petit tour de recommandation dans l'univers de votre choix, parce que vous savez que vous êtes totalement libre, c'est un espace de liberté ici, nos ciné. Stéphane.
Bah là, il y avait une citation de Samuel Jackson qui disait au début des années 2000 en fait qu'il en avait marre en fait d'être le faire-valoir, qu'il ne voulait surtout pas être le faire-valoir en fait des rappeurs qui deviennent des acteurs de cinéma. mais je pense pas qu'il pensait à Ice Cube, qui joue dans Anaconda, tu vois, qui est un film magnifique. Je sais pas si vous l'avez vu. Là, je vous le conseille. Voilà, ouais, c'est un très beau film.
Comme dans chaque émission,
c'est un film
année.
De tout en fait. Voilà, ouais. C'est un film de tout. C'est un film de serpent, c'est un film de jungle, c'est un film de Jennifer Lopez, c'est un film de voilà. C'est un très beau film et avec une très très belle performance de Ice Cube,
ouais.
Qui a eu l'Oscar pour le film. Voilà.
Magnifique.
Donc, je vous le conseille. Anaconda. Louis Loza.
Très bien. Perrine.
Comme je m'ennuyais un petit peu, j'ai eu le temps de penser aux autres films de Shyamalan pendant le film et j'ai repensé à La Jeune Fille de l'eau, justement. Je me disais que moi, ça avait été mon point de non-retour sur Shyamalan. Ouais. Et je me suis dit, tiens, un autre film qui parle de pop culture, de messages cachés, de mythes, de foi dans le quotidien, un petit peu comme ce qu'est aussi finalement Glass. C'était Under the Silver Lake l'été dernier. Ah. C'était Under the Silver Lake, donc je recommande plutôt d'aller voir Glass ou de revoir La Jeune Fille de l'eau, plutôt de se jeter sur Under the Silver Lake qui maintenant est sorti en vidéo.
David ?
Oui, alors moi, il y a un autre aspect qui est un petit peu intéressant dans le film par la réunion d'Incassable et le fait de réutiliser des images de l'époque, c'est que en fait, l'acteur qui joue Joseph Dunn, le fils de David Dunn, c'est le même acteur que dans Incassable, donc qui a grandi. Et un des trucs qui a un petit peu intéressé chez Malan, c'est du coup de pouvoir, en un raccord, passer du personnage enfant au personnage jeune adulte, ouais. Avec du coup la même personne et ça s'inscrit il y a quelques cinéastes qui ont pu faire ça, suivre un acteur sur le temps et parfois faire les liens entre les différentes évolutions. Ça donne un des pires films de Truffaut qui est L'amour en fuite, qui est la fin de la saga Douanel, ouais. et qui a certains des mêmes problèmes que Glass en fait, en utilisant du footage pour faire une sorte de best-of un peu foireux. Et à l'inverse, il y a un projet qui était entièrement conçu pour ça et qui, pour moi, donne un film hyper réussi et qui vaut le coup d'être vu, c'est Boyhood de Richard Linklater, qui suit la vie d'un jeune garçon sur, je ne me rappelle plus la durée, 15 ans.
14
ans. Ouais. Et voilà, c'est superbe.
Très bien.
Ah, c'est con, j'ai pas pensé à Boyhood. J'ai beaucoup de mal à trouver une reco là, mais non, c'est une très bonne. Moi aussi, je conseille Boyhood parce que c'est pas un très grand film, mais c'est un
reco opportunisé. Tu me l'as jamais fait. Bah
non, mais c'est une.
Non,
mais
tu as
rougi du coup. La reco parasitaire.
Non, mais c'est une expérience unique. Moi, j'ai jamais vécu ça en fait, et c'est très bizarre l'attachement que t'as au personnage et tout. Non, moi, elle est un peu pauvre, ma reco, mais quand même, on a parlé tout à l'heure des scènes coupées. Qui était sur les bonus de Shyamalan. Moi, il y a un truc sur les bonus de Shyamalan. En tout cas, je crois que c'était jusqu'à Incassable. Je crois qu'il a arrêté assez vite après, mais que j'aimais beaucoup en fait, qui étaient ces courts métrages d'enfants qui proposaient en fait au visionnage et qui sont des trucs que tu fais quand t'as 7 ans, quoi. Tu vois, puis que tu viens de découvrir une caméra vidéo et tout. Donc c'est pas monté, évidemment. C'est mal joué et tout. C'est très attachant. Alors je sais que du coup, ça m'a aussi énervé à une époque parce que je me suis dit mais c'est un truc de fausse modestie, enfin je sais pas, il y avait une façon de se mettre en scène là-dedans qui m'agaçait un peu à une époque chez Shyamalan, et depuis que j'ai fait la paix avec Shyamalan, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, je trouve ces bonus tout à fait ouais. Savoureux, mais j'aime bien moi les courts amateurs en fait des grands cinéastes, on les voit assez peu, on en a vu un peu de DJ Abrams, de Spielberg, etc. Spielberg c'est autre chose,
ouais. C'est autre chose forcément que Shyamalan. On va pas comparer, on n'est pas là pour ça. Notre temps est écoulé, merci à tous les quatre, merci à Quentin la technique, merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, pour retrouver toutes nos émissions et le programme des prochaines, et puis on vous dit à très vite.
Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.